Vous écoutez, on lit pour vous.
Maman a perdu son boulot. Un texte de Maude Goyer, paru le 8 octobre 2024 dans la presse. Perdre son emploi, peu importe les raisons, représente un moment de stress et d'incertitude. L'annonce à l'entourage se fait souvent en pleine transition, avec toutes sortes d'émotions à gérer. Comment bien faire les choses pour ne pas insécuriser les proches, en particulier les enfants? Marie-Ève, prénom fictif, a vécu un congédiement brutal à la fin de l'été. Au retour de vacances, on lui a appris que son poste était supprimé, comme une dizaine d'autres au sein de ce grand cabinet montréalais de consultation. Elle n'a bénéficié que d'un petit moment pour ramasser ses affaires dans une boîte en carton. Un gardien de sécurité l'a accompagnée à la porte de l'édifice, comme dans les films, raconte la quadragénaire, mère de deux filles de 8 et 11 ans. Le choc a été grand. Mais ce que Marie-Ève a trouvé le plus pénible, outre de ne pouvoir saluer correctement ses collègues des 6 dernières années, c'est de devoir annoncer la mauvaise nouvelle à ses enfants. Personne ne parle de cette double tâche, celle de gérer son moton quand on encaisse la nouvelle et celle de devoir expliquer ce qui se passe, sans mentir, sans dramatiser, mais sans cacher quoi que ce soit non plus. Rassurer et se préparer. Selon Richard Marcotte, psychologue organisationnel, l'une des pires stratégies dans pareille situation serait effectivement de ne pas en parler à ses enfants ou de mentir. Et l'autre erreur à ne pas faire, c'est de tout déballer à ses enfants, sans avertissement et sans précaution, explique-t-il. Le risque dans ce cas-ci? Donner trop d'informations à l'enfant et que celui-ci se sente déstabilisé, stressé et, au bout du compte, anxieux. L'enfant pourrait aussi tomber dans le piège de vouloir jouer au super-héros pour rendre service ou pour faire plaisir, comme s'il se sentait responsable, souligne Nadia Gagné, psychologue et conférencière. Ce qu'on veut, c'est offrir des réponses rassurantes. Se préparer en amont est essentiel, assurent les deux psychologues. D'abord pour se déposer soi-même, absorber la nouvelle et prendre du recul. En deux mots, il faut être disponible au moment de faire l'annonce à notre marmaille. Idéalement, on a du temps devant soi et personne n'est dans le rush ou le stress, précise Nadia Gagné. On ne veut pas seulement livrer notre contenu, on veut se laisser guider par les questions de l'enfant, et pour cela, il faut être ouvert à y répondre. L'enfant sera rassuré parce qu'on se montre disponible. Impact et solutions. Il faut tenir compte de 4 facteurs pour une annonce réussie, même si cela n'est jamais facile, mentionne Richard Marcotte. Tout d'abord, il faut adapter son discours à l'âge de l'enfant. Que va-t-on dire et avec quels mots? Ensuite, il faut parler de choses concrètes, comme l'impact de la perte d'emploi sur soi-même et sur la famille. On peut dire qu'on va se lever plus tard, ou qu'on ne pourra pas faire les mêmes sorties, ou qu'on risque d'être plus à la maison, par exemple, dit M. Marcotte. Aborder les raisons de la perte d'emploi, sans entrer dans les détails, est aussi important. Pour Nadia Gagné, c'est une occasion de s'humaniser aux yeux de l'enfant. L'humilité, c'est toujours une bonne approche. On peut se servir de ce qui se passe comme d'un apprentissage, comme d'une occasion de s'améliorer. On montre à l'enfant que cette perte d'emploi ne va pas nous définir. Et finalement, présenter à son enfant les solutions auxquelles on a pensé pour se sortir de cette situation, ou du moins les possibilités, est une bonne façon d'ajouter un peu de positif à la conversation. L'idée n'est pas de mettre tout rose, nuance Stéphanie Saint-Gelais, directrice générale de la Maison des familles à Baie-Comeau et vice-présidente de la Fédération québécoise des organismes communautaires famille, FQOCF. Il vaut mieux rester réaliste et ne pas se lancer dans les promesses. Organisme communautaire. Cela dit, le rôle du parent est de sécuriser son enfant. On peut se montrer vulnérable et nommer nos émotions, ajoute Mme Singelet, tout en présentant les raisons de la perte d'emploi et les solutions. Le psychologue Richard Marcotte indique qu'il faut garder en tête les objectifs de la discussion, aussi délicate soit-elle. Aider l'enfant à comprendre ce qui se passe, le rassurer et conserver un bon lien parent-enfant. En cas de besoin, il ne faut pas hésiter à faire appel aux organismes communautaires famille à proximité de chez soi, rappelle Mme Singelet. Ils ont un rôle pivot dans ces situations. Ils peuvent accueillir les familles, les soutenir, proposer des ressources et des références pour l'aide à l'emploi, entre autres. La FQOCF compte 260 organismes partout au Québec. C'était « Maman a perdu son boulot », un texte de Maude Goyer paru le 8 octobre 2024 dans La Presse.
Une souche de 3775 ans découverte à Saint-Pie. Un texte de Mathieu Perrault paru le 30 septembre 2024 dans La Presse. Roger Baudry a trouvé une souche complètement préservée, vieille de 3775 ans, sur sa terre à Saint-Pie, en Montérégie. Sa découverte pourrait permettre de réduire les gaz à effet de serre, selon une étude scientifique publiée le jeudi 26 septembre 2024. Tout a commencé avec un projet de revitalisation d'un cours d'eau sur le terrain de M. Baudry, en Montérégie, en 2013. Il y a eu des travaux pour enlever des embâcles d'arbres sur le cours d'eau, explique Ghislain Poisson, agronome au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, MAPAP. M. Baudry prévoyait se débarrasser du bois en le brûlant. Nous lui avons proposé de participer à un projet pilote d'enfouissement dans la glaise pour éviter qu'il ne pourrisse, raconte M. Poisson, qui figure parmi les auteurs de l'étude publiée dans la revue Science. Cette approche, appelée voûte à bois, wood vaulting, était proposée par l'équipe de Ning Zheng, un climatologue de l'Université du Maryland, dont M. Poisson avait vu les travaux. Les arbres de M. Baudry ont donc été enfouis à différentes profondeurs il y a 11 ans. C'est à ce moment que la mystérieuse souche a été découverte. Elle avait l'air bien ancienne, dit l'agriculteur, en marge d'une longue journée passée dans ses champs de soja. J'étais quand même étonné de voir ça. Que la souche ait 3700 ans, j'aurais pas pensé. M. Poisson a conservé le morceau de bois dans son bureau pendant plusieurs années. Puis, en 2019, les arbres enfouis sur le terrain de Roger Baudry ont été déterrés et envoyés au Maryland afin d'être analysés. La mystérieuse souche a aussi été envoyée au laboratoire. Les résultats ont renversé les chercheurs. Malgré son âge vénérable, la souche n'avait pas pourri. Elle avait perdu moins de 5 % de son carbone initial. Et donc, elle n'avait pas émis les gaz à effet de serre, GES, associés au pourrissement. Ni, évidemment, les GES émis quand on brûle le bois. Par son âge, la souche a fait la preuve du concept de séquestration du carbone de cette manière, dit M. Poisson. L'étude de Science évalue que cette méthode, enterrer du bois dans la glaise, pourrait permettre de retirer de l'atmosphère jusqu'à 10 gigatonnes de GES, en équivalent CO2, par année. Le tout a un coût allant de 30 à 100 dollars US par tonne, ce qui est concurrentiel par rapport aux taxes actuelles sur le CO2. Cela représente plus de 15 % des émissions humaines annuelles mondiales de GES. Et le bois d'œuvre? Le bois séquestre aussi le CO2 atmosphérique quand il est utilisé pour la construction d'édifices en hauteur. Mais Ning Zheng n'a pas tenu compte du bois d'œuvre dans ses calculs. Il admet que son évaluation est maximaliste, high-level estimate, et donc que l'approche voûte à bois pourrait avoir un impact moins grand que 10 gigatonnes par année. M. Poisson estime, quant à lui, qu'enterrer le bois dans la glaise pourrait éviter beaucoup de brûlis. Ce ne sont pas toutes les matières ligneuses qui ont un potentiel de valorisation. Quand les producteurs coupent du bois de faible qualité, ils le mettent en tas dans un sous-bois et il se décompose. Sinon, ils demandent un permis de feu à ciel ouvert. L'agronome ajoute que beaucoup de bois pourrit ou est brûlé au Québec. Près de nos cours d'eau, il y a beaucoup de saules et d'érables à giguère qui n'ont pas vraiment de valeur marchande. Et dans les barrages dans le Grand Nord, souvent le bois de dérive capté par les réservoirs est trop loin pour être valorisé par les scieries. Selon M. Poisson, il y a beaucoup de terres argileuses composées de glaise dans la vallée du Saint-Laurent. Le bois n'aurait donc pas besoin de voyager beaucoup avant d'être enterré, ajoute-t-il. Patrick Bonin, responsable climatique chez Greenpeace Canada, est plus circonspect concernant la découverte de la souche millénaire en Montérégie. On parle d'une souche à un endroit. Il faut voir si ça se confirme ailleurs et à plus long terme et évaluer les coûts de l'enfouissement. Il ne faudrait pas qu'une solution présentée comme miraculeuse nous distrait de la nécessité de réduire les émissions de GES à partir de carburants fossiles. En savoir plus. 708 mégatonnes. Émissions de GES du Canada en 2022. Source Environnement Canada. 3,5 tonnes. Émissions annuelles moyennes de GES d'une voiture consommant 10 litres au 100 km au Canada. Source carboneutre.ca, Ressources naturelles Canada. C'était une souche de 3775 ans découverte à Saint-Pie. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 30 septembre 2024 dans La Presse.
Dès le 22 novembre, 85 % des optométristes romperont avec la RAMQ. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 23 octobre 2024 dans Le Devoir. L'Association des optométristes du Québec, AOQ, a finalement mis sa menace à exécution. 85 % de ses membres cesseront de participer au régime public d'assurance maladie à compter du 22 novembre 2024. Les compensations qui leur sont offertes par Québec à ce jour sont insuffisantes, estime-t-il. Le régime public couvre les moins de 18 ans, les 65 ans et plus, ainsi que les prestataires de l'aide sociale. À partir du 22 novembre 2024, ces populations devront désormais payer pour obtenir des services d'optométrie, notamment environ 140 $ pour un examen annuel de la vue, qui était jusque-là gratuit pour eux. Mercredi, les optométristes ont déploré être dans une impasse dans leurs négociations avec Québec. Celles-ci portent sur le renouvellement de l'entente au sujet de la tarification et des conditions de participation à la régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ, de ses professionnels, échus depuis 2020. Nos frais d'exploitation ont augmenté 3 fois plus vite que les tarifs à l'acte consentis par le gouvernement, de sorte que notre rémunération par visite de patient RAMQ n'est aujourd'hui que 3,50 $, a affirmé le Dr Guillaume Fortin, président de l'AOQ, dans un communiqué. Plus tôt en octobre 2024, l'Association des optométristes du Québec avait fait circuler parmi ses membres le formulaire que tout professionnel de la santé doit remplir afin de couper ses liens avec le régime public. L'AOQ représente quelques 1 500 membres. Moyen de pression. Joint par Le Devoir, le cabinet de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a indiqué avoir déposé aux tables de négociation des offres raisonnables qui tiennent compte de la réalité des optométristes. Il a ajouté évaluer présentement les moyens qui sont disponibles pour protéger l'accès aux services à la population. De son côté, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a qualifié l'annonce de l'AOQ de « moyen de pression ». Ils n'ont pas menacé de se retirer du régime public demain. Ils ont menacé de le faire au mois de novembre, a-t-il souligné en mêlée de presse mercredi. On va laisser les négociations suivre leur cours. Le député solidaire Vincent Marissal a soutenu que Québec devait protéger la population. Les gens ont besoin de se faire soigner les yeux. C'est la responsabilité du gouvernement d'arriver avec une entente, a-t-il dit. L'élu péquiste Joël Arsenault a pour sa part déploré le stress causé par ce bras de fer entre Québec et les optométristes. Ce sont les citoyens les plus vulnérables qui sont pris en otage. À un moment donné, il faut trouver un terrain d'entente pour offrir les services, point à la ligne. Quant au député libéral André Fortin, il a exhorté les deux parties à conclure un accord afin de prioriser le bien-être des Québécois. Il va y avoir un impact sur leur santé. Il y a des gens qui vont se priver de services. En 2018, les optométristes avaient aussi décidé de se retirer de la RAMQ lors de négociations avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Ils avaient finalement décidé de revenir au sein du régime public après être parvenus à une entente avec le gouvernement. Or, ces professionnels pourraient cette fois quitter la RAMQ pour longtemps, avait dit au Devoir vendredi dernier la directrice générale de l'AOQ, Maître Maryse Nolin. Les optométristes n'ont rien à perdre à devenir hors RAMQ. Ils vont enfin faire leurs frais. C'était dès le 22 novembre, 85% des optométristes romperont avec la RAMQ. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 23 octobre 2024 dans Le Devoir.
SDC du village et Caisse des jardins du quartier latin. Dynamiser le village grâce à la coopération. Une chronique d'André-Constantin Passiour, parue le 28 octobre 2024 dans le magazine Fugue. Depuis 3 ans maintenant, un partenariat s'est constitué entre la Société de développement commercial, SDC, du village et la Caisse des jardins du quartier latin de Montréal. Présente dans le milieu par le biais de différents partenariats, Archives gays du Québec, espace LGBTQ+, Montréal en art, etc. Voilà 3 ans que cette institution, sise sur la rue Berry, s'associe pleinement avec la SDC du village et l'accompagne dans ses divers projets via son Fonds d'aide au développement du milieu, FADM. Nous croyons aux projets de la SDC qui sont structurants pour notre milieu, explique Simon Derry, le directeur général de la Caisse des jardins du quartier latin. Notre FADM nous permet de contribuer à la communauté en soutenant des projets qui répondent concrètement aux besoins du milieu. Avec la SDC, nous partageons les mêmes aspirations pour le village et pour la communauté 2SLGBTQIA+. Notre nature coopérative, c'est ce qui nous distingue d'autres institutions financières. Chaque caisse peut être présente dans son milieu et soutenir les projets locaux, comme ceux de la SDC. Nous avons d'ailleurs annoncé un soutien financier pour le projet de rénovation de l'édifice d'espace LGBTQ+, qui est un projet structurant et important pour la communauté 2SLGBTQIA+ et pour le village. C'est un bel exemple de projet que nous appuyons, poursuit-il. En plus de ce partenariat, la Caisse des Jardins du Quartier Latin siège sur le conseil d'administration de la SDC, représentée de manière bénévole par Mme Geneviève Duguay, gestionnaire à la Caisse du Quartier Latin. Cela nous permet d'être encore plus connectés aux enjeux de notre milieu et de mieux y répondre, dira Simon Derry. À chaque fois que j'ai fait face à un enjeu, Geneviève Duguay est prête à collaborer, à m'épauler et me donner de très judicieux conseils, souligne Gabriel Rondy. En 2021, lorsque le directeur général de la SDC du village a quitté ses fonctions, l'organisation a traversé une tempête importante. La SDC était en crise, alors on s'est mis à réfléchir avec la Caisse sur les actions à entreprendre, sur comment on pouvait sortir de cette crise. En discutant ensemble, nous nous sommes rendus compte que nous avions des valeurs et une vision commune, notamment pour améliorer le village et pour nos projets. Tout concordait pour qu'il y ait un partenariat entre la SDC et la Caisse, souligne pour sa part Gabrielle Rondy, la directrice générale de la SDC du village. Concrètement, cela veut dire quoi pour le commun des mortels, ce partenariat? L'an dernier, nous avons eu ici, dans notre local, un bel événement commun avec la Caisse et la Chambre de commerce LGBT du Québec, dit Gabrielle Rondy. C'était très intéressant de réunir tous ces gens-là. C'était incroyable. Tout le monde croit à cette vision du développement du village, de coopérer, de créer des projets ensemble, etc. C'est sur cette base-là que nous fondons notre partenariat et cette activité-là en était un bel exemple. Notre projet d'habillage des locaux alloués comporte un code QR qui nous renvoie aux informations sur le local disponible, mais aussi sur les partenaires, comme la Caisse des Jardins qui est notre partenaire principal. C'est un autre exemple de coopération. On réfère ainsi les futurs commerçants à la Caisse s'ils veulent obtenir de l'accompagnement financier, indique Gabriel Rondy. Il faut savoir que la Caisse des Jardins du Quartier Latin est la plus importante institution financière dans le secteur, avec plus d'une quarantaine d'employés. Avec notre Fonds d'aide au développement du milieu, FADM, c'est plus de 200 000 $ par année qui sont investis dans le milieu, de poursuivre Simon Derry, également président du comité LGBTQ+, du Mouvement des Jardins. On annonçait en septembre que l'on soutiendrait de manière concrète, avec ce fonds, le développement et la rénovation de l'édifice d'espace LGBTQ+. Le 8 octobre dernier, l'usine C, qui est aussi partenaire de la Caisse, les recevait pour le cocktail Reconnaissance 2024, un événement annuel qui regroupe les employés de cette institution ainsi que les administrateurs et administratrices et organismes partenaires. C'est une soirée qui s'inscrit dans nos traditions, pendant la semaine de la coopération, qui nous permet de prendre un temps pour dire merci à tous ceux et celles qui contribuent à faire vivre notre nature coopérative, dit Simon Derry. Nous voulons tous que le quartier s'améliore, qu'il soit redynamisé autant pour les commerçants, commerçantes, les résidents, résidentes, les visiteurs, visiteuses, etc., indique Gabriel Rondy. Ce sont justement ces valeurs communes qui animent notre partenariat avec la Caisse qui est désireuse, elle aussi, de s'impliquer afin de voir le village se développer encore plus et qu'il soit plus attractif. La Caisse investit également, via le Fonds du Grand Mouvement, dans l'agrandissement de la maison plein cœur, une somme d'un demi-million de dollars pour la nouvelle aile. Cela contribue au village aussi de voir ce projet-là se réaliser avec des logements dont on a tellement besoin pour de telles personnes vivant avec le VIH-SIDA, dit le directeur général de cette caisse qui a pris ses fonctions en 2020. On le sait, des travaux d'aqueduc de grande envergure de la ville arrivent à grands pas dans le quartier dès 2025 selon les dernières planifications municipales. Ce sera peut-être l'occasion pour des marchands de procéder eux aussi à relooker leur commerce, à les rendre plus attrayants, plus au goût du jour. Le programme Rénaud Assistance par Desjardins est conçu pour soutenir les entrepreneurs dans ces travaux. Que ce soit de petits projets ou des travaux plus majeurs, nous pouvons leur donner accès à des fournisseurs qualifiés et fiables pour réaliser ces travaux d'amélioration. Dans la veine d'aider encore plus les commerces, la SDC du village aimerait leur remettre éventuellement des prix lors d'un événement reconnaissance. On aimerait ça pouvoir mettre en valeur les entreprises qui se démarquent, explique Gabriel Rondy. Ce serait quelque chose qui rassemblerait les commerçants, commerçantes dans une belle ambiance et nous aimerions associer Desjardins à un tel événement, mais qui soit à long terme. De plus, la brigade du village, comme on l'a appris dans la dernière chronique, sera reconduite en mode hivernal jusqu'au printemps 2025. Ce sera une opportunité de plus pour s'impliquer avec la SDC du village. C'est un projet structurant pour lequel nous discuterons avec la Caisse, ajoute la directrice générale de cette SDC. Le 31 décembre 2024 conclut la période triennale d'entente entre la SDC et la Caisse Desjardins du quartier latin. Des échanges ont actuellement lieu à savoir si cette entente sera partenariat. Pour terminer, Simon Derry mentionne que la Caisse est toujours à l'écoute des besoins des membres. Les guichets automatiques de la Caisse, qui étaient situés près de Papineau, seront déménagés au dépanneur du village à la fin novembre, donc près de la station Baudry. Le conseil d'administration a opté pour une relocalisation des guichets à proximité, et ce, avec une accessibilité prolongée. Le nouvel emplacement, dépanneur du village, est accessible 24 heures sur 24 et offrira un environnement propre et sécuritaire aux membres souhaitant utiliser un guichet automatique, note Simon Derry. Ce sera également plus central, au cœur du village. C'était SDC du village et Caisse Desjardins du quartier latin. Dynamiser le village grâce à la coopération. Une chronique d'André Constantin Passiour, parue le 28 octobre 2024 dans le magazine Fugue.